Alors en ce dimanche, il s'agit de rendre grâce pour la vie consacrée, le sacerdoce, en particulier le sacerdoce, puisque l'évangile du bon berger met en scène un berger, c'est-à-dire quelqu'un qui conduit. Celui qui conduit dans l'église, c'est le pasteur, c'est le prêtre. Donc nous allons demander des prêtres pour l'église. Alors je me suis dit, comment avoir des vocations ? Alors je pense que, enfin je connais pas, je saurai au ciel quel est le problème. Je pense qu'il y a un problème chez moi et trois problèmes chez vous. Non, enfin bon, c'est pas grave. Non, ça c'est pas bon. Bon, pour la prochaine homélie, je changerai. Non. Alors, dans tout ça, j'ai pas écrit, hein, donc permettez-moi de. Bon, enfin, il y a beaucoup de problèmes chez moi et dans l'église. Je pense que si nous n'avons pas de vocation, c'est parce que l'Église n'attire pas, c'est parce que les prêtres manquent de bonté, parce que je manque de bonté, je manque d'attention. Alors, j'ai la chance d'être dans une communauté où, assez fraternellement, on se dit les choses, et cet esprit communautaire rejaillit vraiment dans la paroisse, où vous êtes assez simple pour me dire ce qui ne va pas, mais... voilà, enfin, beaucoup ont été scandalisés, voilà, par les problèmes de mœurs qu'on a eu dans les journaux, etc., dans l'Église. Alors, ce problème existe depuis le début, puisque Judas volait dans la caisse. Bon, Pierre a renié. Bon, donc dès le départ, ça fonctionne pas bien. Mais en même temps, le prêtre est acculé à la sainteté. Je ne peux pas me permettre d'être médiocre. Je ne peux pas me permettre de ne pas viser vraiment cette sainteté qui est un don de Dieu. Voilà. Mais j'ai obligé parce que si je ne travaille pas sur moi, eh bien forcément, vous le ressentez très rapidement. Voilà, donc merci de votre prière et puis je vais essayer de faire mieux pour que le sacerdoce soit attirant. Alors, je disais, il y a trois problèmes chez vous, mais c'est aussi chez moi, parce que j'ai besoin du prêtre aussi pour moi. Et peut-être la première chose, donc, chez vous et chez moi, c'est que nous n'avons pas de vocation, parce que nous ne disons pas, nous ne lisons pas ce besoin du sacerdoce, ce besoin des prêtres chez nous. Est-ce que j'ai vraiment besoin des prêtres, voyez ? Je pense à la petite Thérèse qui est rentrée au Carmel. Elle a dit « Je suis rentrée afin de prier pour les prêtres ». Elle n'était pas rentrée pour son confort, elle était rentrée à cause du sacerdoce. Mais la petite Thérèse, elle avait quand même ses parents qui allaient à la messe tous les jours à 5h30 du matin. Vous voyez, l'Eucharistie, c'était important pour elle parce que elle l'a vu dans les yeux de ses parents, dans l'attitude, dans la vie habituelle de ses parents. Est-ce que nous avons besoin de prêtres ? Est-ce que vos enfants et notre entourage, je m'adresse bien sûr aux familles et je m'adresse aussi à tous les paroissiens, puisque des jeunes vont se poser la question du sacerdoce en vous voyant, en me voyant et en vous voyant. Est-ce que, donc, dans les familles et dans les communautés, les jeunes voient que nous avons besoin du pardon, que nous avons besoin de la miséricorde, que recevoir le sacrement de confession régulièrement, c'est un besoin. S'ils ne lisent pas, mais pourquoi je serais prêtre, puisqu'il n'y a pas besoin, en fait, de la miséricorde, du pardon ? Pourquoi je serais prêtre, puisque quand on est en vacances, il n'y a pas la messe dans le coin, donc les parents disent « Allez, bon, on est déjà assez croyants, on ira dans 15 jours. » Et à ce moment-là, le jeune, qu'est-ce qu'il dit ? L'Eucharistie, c'est pas très important. Pas très important puisque mes parents peuvent le mettre, faire sauter la messe dominicale. Et pareil pour des grands-parents, hein ? Vous êtes chez vos enfants et je veux pas déranger. Je veux pas déranger. Alors je dis, écoutez, je demande même pas pour aller à la messe. Eh bien, qu'est-ce que voit le petit enfant qui a 8 ans, 12 ans? Ben, grand-mère, grand-père, en fait, quand il est chez nous. Bon, la messe, c'est pas très important. Vous voyez, nous signifions en quelque sorte le besoin, enfin la nécessité des prêtres par nos besoins. Voilà. J'aime bien ce que disait le Benoît XVI en 2008 aux évêques. Il disait, à l'école du curé d'Ars, c'était l'année du curé d'Ars, ne cessez pas de redire qu'un homme ne peut rien faire de plus grand que de donner aux fidèles le corps et le sang du Christ et de pardonner les péchés. Je suis désolé, mais je fais ce qu'il y a de plus grand, qui est de faire naître Dieu sur terre chaque jour. Il n'y a pas plus grand. Première chose, donc le besoin. La deuxième chose, nous aurons des prêtres, à mon avis, si nous regardons le sacerdoce comme un beau chemin et un chemin facile. Je dis un beau chemin parce que parfois, quand il y a une vocation dans la famille, consacrée ou sacerdotale, c'est pour certains la catastrophe. On avait pensé pour toi d'autres projets, mais tu te rends compte, tu as fait des études et tu vas être monial à faire des poteries et le jardin et peut-être l'économat bon, dans quelques années. Mais c'est ce qu'on avait dit à Jean-Marie Petitclerc qui était polytechnicien, qui a eu la vocation, et son entourage a dit, mais enfin quand même, vu les études que tu as faites, tu vas quand même pas être prêtre. Donc est-ce que c'est un beau chemin? Et la deuxième chose, est-ce que c'est un chemin facile? Parce que si on présente le sacerdoce ou la vie consacrée comme un truc hyper difficile, pour une élite, etc., ça va pas donner envie. Et au bout de 11 ans de sacerdoce, j'ai quand même côtoyé un certain nombre de familles, et évidemment mes collègues, je les vois quand même de près. Il me semble que le mariage est plus difficile que la vie consacrée. Donc je vous dis bravo à vous, oui, à tous ceux qui sont mariés, et c'est vraiment par expérience. Et alors Saint Paul est d'accord avec moi, donc ça je suis très content parce qu'il le dit dans la première aux Corinthiens au chapitre 7. Voilà ce qu'il dit à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je déclare qu'il est bon pour eux de rester comme je suis. Je donne un avis, tu es marié, ne cherche pas à te séparer. Tu n'as pas de femme, ne cherche pas à te marier. Si cependant tu te maries, ce n'est pas un péché, mais ceux qui font ce choix y trouveront les épreuves correspondantes. Bon. Alors, ceux qui sont mariés comprennent très bien ce que je veux dire. Ceux qui sont célibataires, ils disent, mais je vois pas, non. Les fiancés, ils sont encore dans... Enfin, c'est très bon. Bah oui, si on n'était pas dans ce nuage, un petit peu comme l'encens, vous voyez, qui cache les défauts des bâtiments, eh bien, on ne se marierait pas. Donc, c'est très bien qu'on soit dans ce nuage. Bon. Mais il faut bien comprendre que... vous voyez, pour un prêtre, notre vie est très unifiée. Entre ma vie privée, ma vie publique, mon travail, mes loisirs, tout ça, ça ne fait qu'un. Pour certains, vous avez votre journée de travail, avec un travail qui a plus ou moins de sens, faut arriver à donner du sens parfois. Le soir, bien sûr, alors il y a une répartition des activités qui est toujours une mise au point régulière à faire. Et puis, ensuite, bien sûr, parce que je suis un bon chrétien et que j'ai compris que l'Église, c'était moi, je passe au bénévolat, troisième partie. Et je me tape une réunion, un machin, pour l'Église. Bon, vous voyez, j'ai trois vies successives. Pour un prêtre, c'est très unifiant. Et la matière en elle-même me conduit à Dieu. C'est quand vous êtes derrière un ordinateur à fabriquer du chocolat... C'est pas facile, vous voyez, pour vous dire que vous faites ça pour la gloire de Dieu. Il faut toujours avoir une sorte d'étape intérieure. En fait, oui, dans mon travail, je peux aimer mes collègues, je fais tout ça pour la gloire de Dieu, mais ça demande toujours un petit raisonnement. Tandis que quand vous allez voir des pauvres, quand vous allez voir des malades, quand vous travaillez la parole de Dieu, quand vous travaillez les légumes dans le monastère face à un paysage extraordinaire, c'est beaucoup plus facile pour vous mettre auprès de Dieu. Faut qu'on arrête, voyez, de dire. Alors, on peut être saint partout. Hein, Louis et Zélie Martin étaient saints, c'est clair. Mais c'est plus difficile si on est marié. C'est tout. Bon, vous êtes prévenus. Pour ceux qu'on parle. Voilà. Alors, donc, la question, c'est est-ce que, voyez, je présente la vie consacrée comme quelque chose d'évident pour se donner totalement à Dieu. La dernière chose, il me semble que nous aurons des prêtres si nous entrons dans une vie eucharistique. Donc une vie eucharistique, c'est-à-dire une vie d'offrande. Qui est Dieu ? Dieu est un mystère de communion, d'offrande perpétuelle entre le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Qu'est-ce que nous célébrons à la messe ? Nous célébrons l'offrande du Fils au Père. Et donc notre vie, elle est à l'image de Dieu, à l'image du Fils, comme disait la deuxième lecture. Donc notre vie est une vie d'offrande. L'homme ne se trouve que dans le don désintéressé de lui-même. Ce qui veut dire que nous aurons des jeunes qui donneront leur vie à Dieu et aux autres s'ils lisent dans notre vie que nous sommes dans un état d'offrande, de remise de nous-mêmes. Un jeune qui a 17 ans, il sait, ou 15 ans, il sait très bien, en fait, à qui, à quoi ses parents donnent leur vie. Il voit très bien, il le sent très bien. Moi, je pense que j'ai pu donner ma vie parce que mes propres parents étaient investis dans les AFC, par exemple, les associations familiales catholiques. Donc, ils avaient un souci de défendre la famille, ils avaient un souci de l'école chrétienne, ils avaient un souci des pauvres, on invitait des pauvres le dimanche à la maison. Voilà. Et donc, j'ai rapidement compris qu'une vie réussie, c'était une vie donnée. Mais si je vois que mes parents donnent leur vie à leur jardin ou à leur bateau, ben je vais me dire, en fait, réussir sa vie, c'est avoir un certain confort. Voilà, et c'est proposer des loisirs de luxe à nos enfants. C'est important que nos enfants puissent aller à la neige, puissent faire ceci, puissent faire cela. On les aime. Ah oui, mais c'est un message. Moi, j'ai pas été à la neige quand j'étais petit. Bon, pas dramatique. J'étais à la neige quand j'étais prêtre. Voilà, quand vous êtes prêtre, vous allez à la neige. Vous faites du bateau. Bon, donc, voilà, donc, voyez, est-ce que je vois ça, voyez, dans la vie de mes parents ? Est-ce que je vois dans la vie de mes parents, comment dire, qu'ils prennent des responsabilités dans la cité et dans l'Église ? C'est difficile, hein, dans l'Église. Vous demandez, est-ce que vous voulez bien être responsable de ça ? Ah non, 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 je veux pas être responsable, je veux bien être dans l'équipe. Bon. Quand les gens sont déjà responsables par ailleurs, c'est normal. Quand ils ont aucune responsabilité, à moins qu'il y ait que ce soit un compliqué intérieurement pour différentes raisons, mais ce n'est pas normal. Si je vois que mon papa, ma maman, en fait, prennent des responsabilités dans l'église et la cité, j'ai envie à ce moment-là d'être pasteur. Un prêtre, c'est un pasteur. C'est quelqu'un qui conduit un peuple quelque part, vers le ciel, qui fait passer l'humanité de la terre au ciel. Et donc, il faut arriver à développer dans le cœur de nos jeunes, de vos enfants, de vos neveux, ce cœur de pasteur, ce cœur de responsable. C'est quand même vachement beau de conduire, voyez, une équipe, de conduire l'Église, d'amener les uns et les autres à être pasteur. Ça s'apprend dans le scoutisme, ça s'apprend à droite à gauche. Mais c'est sûr que si je suis dans la petite, je vous dis ça, les plus jeunes, si vous êtes dans votre petit jeu électronique, votre petite télé, vos loisirs, si je ne suis que dans une culture du loisir et pas une culture de l'offrande, ben, je ne serai pas pasteur. Voilà. Et bon. Alors je conclue. Pour les adultes, alors d'abord, le mystère de l'appel est mystérieux, c'est-à-dire que ne culpabilisez pas telle ou telle famille en vous disant « Écoutez, j'ai eu l'impression d'avoir besoin des prêtres, j'ai eu l'impression de bien parler du sacerdoce, j'ai eu l'impression de m'offrir, j'ai pas de vocation dans ma famille. » C'est mystérieux, voilà. Je dis les conditions, apparemment, mais Dieu est capable de faire naître des prêtres dans des familles où les parents n'ont pas du tout la foi, donc Dieu est libre. Mais il me semble qu'il y a des conditions qui aident. Voilà. Bon. C'est pas tout blanc, tout noir. Bon. Pour les adultes, je voudrais vous rassurer parce que vous êtes déjà dans une vocation, dans un célibat qui n'a pas forcément été choisi, etc. La vocation n'est pas importante. Ce qui est important, c'est la sainteté. Donc si on est un prêtre médiocre ou un couple médiocre, ça ne sert à rien d'envie de se marier, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'être un saint. Et la vocation est un moyen, ce n'est pas une fin. Au ciel, il n'y a plus de vocation. Voilà. Donc c'est important, si je me marie, c'est parce que c'est le chemin plus court pour être un saint. Si je choisis un célibat, c'est le chemin plus court pour être un saint. Si je choisis prêtre, c'est un chemin qui pour moi est le plus court, le plus simple. Le but, c'est la sainteté. Pour les plus jeunes qui ne sont pas encore engagés, la première chose peut être demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux pour moi ? Et enlève de mon cœur toutes les caricatures qui fait que je ne pourrais pas me poser la question à cause des fausses images. Pour les jeunes, je vous en supplie, les jeunes filles, soyez, comment dire, aidez les garçons. Aidez les garçons à plonger en Dieu. Soyez pas, comment dire, je vais le faire dans une formule choc, soyez pas séductrice, mais médiatrice. Est-ce que je permets au garçon, et je me dis, tiens, avec lui, je pourrais peut-être faire ma vie, mais est-ce que je lui permets de réfléchir, de se poser vraiment la question de cette offrande à Dieu ? Qui va être pour lui difficile. Pourquoi ? Parce qu'un jeune garçon qui se pose la question du sacerdoce, il est attiré par le mariage. Je ne suis pas prêtre parce que je n'ai pas envie de me marier. J'ai envie de me marier, mais comme j'ai appris dans mon enfance, dans ma vie, à offrir, à rentrer dans un esprit eucharistique, je sens que je dois faire de ce mariage une offrande. Et donc, je vais choisir le célibat. Et vous voyez, s'il y a toujours des gazelles qui tournent tout le temps dans la séduction, ça n'aide pas le garçon à se poser la question d'une offrande de sa vie. Et puis, pour les jeunes aussi, faites-vous accompagner. C'est bien de se faire accompagner. Voilà. Et puis, il faut arriver à faire silence. C'est la dernière chose. Dieu, je pense qu'il appelle. La crise, c'est pas une crise d'évocation, c'est une crise de l'écoute. Si je suis sur mon téléphone, mon iPad, mon iPod, mon machin, hyper connecté en permanence, comment voulez-vous que Dieu vous parle ? Il faut qu'on s'ennuie. Le jeune homme riche, ben c'est quelqu'un qui s'ennuie. Il pose la question à Jésus, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? Si je suis complètement en permanence, vous voyez, dans la suractivité avec trois activités le mercredi différentes et puis le week-end machin. Il faut arriver à s'ennuyer pour que Dieu puisse parler. Il faut faire de l'espace, il faut faire de l'air. Donc, voilà. Bon, ben, amen.